Alors, une question de Florence qui demande: qu'en sera-t-il de la dualité dans la 4D, 5D? Alors, la dualité existera toujours, elle existe toujours, hein, puisque tout le monde, tout l'univers est basé sur la dualité. La dualité, c'est le masculin-féminin. Donc, on ne va pas supprimer le masculin-féminin, puisque c'est le moteur même, je dirais, de l'univers. C'est-à-dire que il y aura toujours un pôle positif, un pôle négatif, mais il y aura jamais de relation disant si c'est négatif, c'est pas bon. Donc il faut le supprimer. Ça, c'est du réflexe 3D, c'est-à-dire où on met les choses en opposition plutôt qu'en complémentarité. Donc la dualité en tant que telle existera toujours, mais parce que vous en aurez conscience, elle n'aura plus son effet dit négatif. C'est-à-dire celui du ciseau, c'est-à-dire celui qui coupe, celui qui sépare ou celui qui écrase, puisque vous allez travailler avec. Donc au lieu de voir deux forces qui s'opposent, eh bien c'est comme prendre, je dirais, une roue. Eh bien si quelqu'un pousse par le bas et l'autre pousse par le haut, hein, au niveau de la roue, eh bien ça tournera dans le même sens pour tout le monde. Donc c'est la même chose, au même titre qu'un chakra. Donc d'une certaine manière, physiquement, la dualité existera toujours, mais psychologiquement, eh bien, elle ne sera plus un problème pour toutes les personnes ayant franchi cette fréquence. Car quand nous serons en 5D, eh bien, c'est la fameuse phrase « quand le 2 fera 1 ». C'est-à-dire que quand le masculin et le féminin feront 1 et seront 1, ce n'est pas qu'ils n'existeront plus, c'est qu'ils travailleront d'une manière tellement harmonieuse entre elles que ça sera parfait. Voilà. Et donc, quand deux forces travaillent forcément en harmonie entre elles, c'est qu'il y a un centre. Et donc, ce centre, c'est ce fameux chat de l'aiguille, c'est forcément cette sortie, entre guillemets, c'est, on pourrait dire, le centre du vortex. Donc, au centre du vortex, eh bien, c'est être dans sa paix intérieure. Si vous êtes dans l'œil du cyclone, vous ne craignez absolument rien. Sauf que le cyclone se déplace. Donc, vous avez simplement à suivre la musique tranquillement dans votre cité. Si vous ne réfléchissez pas, vous n'essayez pas de calculer la direction du cyclone, vous n'aurez aucun ennui mental, déjà, dans un premier temps, et vous réagirez naturellement à son déplacement. Si par contre, vous voulez tout projeter pour être savoir, pour être sûr, pour ne pas vous prendre les bords du cyclone, eh ben, vous allez vous les prendre, parce que votre mental n'est pas étudié pour ça. Donc, votre mental est étudié pour faire fonctionner votre corps physique, pas diriger votre vie. Votre vie est dirigée par l'intelligence du cœur. Et l'intelligence du cœur est une intelligence intuitive, immédiate. Et donc, quand c'est immédiat, vous êtes dans l'icité. Et intuitive, pour la simple et bonne raison, c'est qu'elle sait ce qui va se passer dans le futur avant même que vous puissiez y penser. Pourquoi? Parce qu'elle vit dans l'éternel présent. Donc pour elle, passé, futur, elle n'a rien à battre, puisque c'est que du présent permanent. Donc en écoutant votre petite voix, en étant dans l'icité, eh bien vous êtes dans l'œil du cyclone. Vous êtes au centre. Et au centre, la température est idéale. Et il y a un courant, on va dire, ascendant du bas vers le haut. Donc vous êtes en apesanteur. Si par contre vous sortez du centre, là vous allez avoir quelques ennuis giratoires, on va dire. Hein? Et ça va, je dirais, balancer lourd lourd. Donc, quand on sort de l'œil du cyclone, on dépense énormément d'énergie pour y revenir. Donc, ne baissez pas votre taux vibratoire pour des raisons X, Y, Z, parce que vous vouliez regoûter une cigarette ou remanger une cuisse de poulet ou quoi que ce soit. Quand vous êtes dans l'œil, restez dans l'œil et puis vous dites profitez du courant ascendant pour monter le plus haut possible. Entre guillemets. Hein? Bien, donc on va passer à la prochaine question qui concernant bien sûr la transition. Une question de Kumara. Bonsoir Laurent, dans notre corps physique, la peau et notre conscience. Je suis une ancienne responsable financière. Voilà 2 ans que je fais du massage ayurvédique pour gagner ma vie et j'adore. Est-ce que cela a un rapport avec la transition? Ben oui, disons que d'une certaine manière, passer de la finance à faire du massage ayurvédique, c'est sûr qu'on ne voit pas très bien le lien. Cela veut dire que d'une certaine manière, eh bien, tu es beaucoup plus maintenant dans la vibration des choses, dans le toucher, et donc dans une certaine forme de conscience et de transmission d'informations avec d'autres personnes, plutôt que dans, excuse-moi, l'arnaque financière. Voilà. Une question de Jean-Marc. Je me sens rentré plein pot dans la 4D. Plus rien ne vient me perturber. Mais là, depuis quelques jours, je fais tout péter autour de moi. Ma voiture, un tuyau d'alimentation d'eau en plastique, ma lessiveuse, des ampoules. J'ai testé ça et ça va bien de moi. Et ça vient bien de moi. Ma compagne a le même problème avec les ampoules. Ça nous fait bien rire. Tu crois que c'est lié au niveau vibratoire? Tu as déjà connu ça? Alors, il est clair que nos capacités de co-création est directement lié à notre vibration personnelle et donc bien sûr à la puissance de notre aura, à la puissance énergétique des vortex qui nous constituent. Donc il peut y avoir effectivement, on peut dire, des interactions des fois un peu olé-olé, un peu bizarres, un peu surprenantes, comme on le voit souvent dans certains films fantastiques, c'est bien. Mais cela ne veut pas dire que c'est forcément, on va dire, une bonne chose, dans le sens 3D du terme. Hein. C'est-à-dire que souvent, quand on dit, tiens, il y a quelqu'un, un fantôme ou n'importe qui vient, tout de suite, vous avez les lampes qui grésillent. Ce sont des images ancrées dans l'inconscient humain, hein, mais qui n'ont rien à voir forcément avec une réalité. Peut-être que ça s'est fait, oui, mais ce n'est pas forcément vrai à 100%. Donc, de mon côté, tout ce que je sais, c'est que je ne démagnétise pas les choses, que je ne fais pas péter les ampoules, qu'il n'y a aucun verre qui casse quand je parle, etc. C'est-à-dire que mécaniquement, au niveau, je dirais, énergétique, je ne casse rien. En effet, quand il y a de la casse, ça veut dire qu'il y a une rupture d'harmonie entre vous et le milieu ambiant. En clair, ben, ça fait comme des éclairs et ça fait casser les choses. Donc, cela n'est pas forcément une source de puissance, cela indique simplement que votre puissance est en train, je dirais, de se faire connaître, mais qu'elle est encore non maîtrisée, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire, ce sont des éclairs, ça pète un peu dans tous les sens, parce qu'il y a des charges électriques, entre guillemets, qui font qu'il y a des éclairs. Mais arrivé à un certain stade de vibration, eh bien, il y a une certaine forme de sagesse intérieure qui fait que cette puissance est contenue suffisamment pour éviter les différences électriques trop importantes qui créeraient, on va dire, l'éclair. En clair, si vous pensez que quand un ange va venir, ou un archange va venir, ou tout être de lumière va venir, si son taux vibratoire était si élevé, eh bien, et que 3 km avant qu'il arrive, il y a déjà tous les verres, enfin, des fenêtres qui ont cassé, qui ont volé en éclats, et que quand il arrivera proche de vous, de toute façon, il n'y aura plus rien qui existera parce que tout aura été cassé, c'est pas véritablement une bonne énergie qui vient à vous. Une bonne énergie qui vient à vous, c'est se tenir à distance afin de garder l'intégrité des choses, et non pas dans le démonstratif des choses. Hein. Donc, l'objectif de tout être qui est rempli véritablement d'amour inconditionnel, c'est surtout le respect par rapport à tout. Et je vous rappelle que même si un mur vous semble mort, il ne l'est pas, par ceux qui le composent. C'est-à-dire que même au niveau atomique, il y a des formes de vie qui habitent. Et donc tout être conscient de sa puissance, entre guillemets, ne s'amusera pas à faire comme tous les méchants dans les films, à vouloir tout détruire pour dominer. Il sera d'une gentillesse incroyable. Et donc, si il doit se tenir à distance pour éviter de faire de la cata, il se tiendra à distance. Parce qu'il n'a pas un ego suffisamment fort pour dire « Moi, je vais montrer qui je suis et c'est qui a de la patate. » Jamais aucune démonstration de force ou de violence parce que vous avez un niveau énergétique très élevé. Rien. Vous savez, c'est comme un maître de kung-fu, de karaté, ou tout ce que vous voulez, enfin, ou l'image qu'on véhicule par rapport à ça. Eh bien, généralement, celui qui sait, vous avez l'impression que c'est un agneau quand vous le regardez. Par contre, les petits bras, ceux qui s'y croient, ils jouent au dur à cuire. Et dans tous les films, le dur à cuire se fait envoyer balader par le petit pépé qui paye pas de mine, mais qui est en paix avec lui. Donc un véritable être de lumière n'est pas quelqu'un qui casse les choses volontairement ou involontairement. Il peut simplement y avoir, on va dire, quelques fuites dans la carapace, dans l'armure, entre guillemets, du guerrier, qui fait que dans cette fuite, les rayons qui sont émis, ils vont faire un peu de casse autour. Mais je souhaite que ça soit simplement temporaire, afin que le guerrier, entre guillemets, puisse découvrir où est la faille, et donc de mieux contenir sa propre énergie à des fins positives et non destructives malgré lui. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à ça. Une question de Linda. Que veulent dire les orbes qui apparaissent sur des photos prises à l'extérieur? C'est tout simplement des formes d'énergie qui nous apparaissent comme des points lumineux d'une certaine manière, mais qui appartiennent à d'autres dimensions. Donc les appareils photo arrivent à choper ça, des fois, on est d'accord, parce que les appareils photo ne sont pas munis d'un corps émotionnel, ils sont purement physiques. Donc ils captent, et ça c'est connu de tous les photographes, l'objectif d'une caméra ou d'un appareil photo voit des choses que l'œil humain ne voit pas. Donc quand vous regardez un brouillard, vous dire tiens, c'est super beau avec un arbre dans le brouillard, je prends la photo, prenez la photo, vous verrez que il n'y a pas de brouillard ou très peu ou trop. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que vous avez vu. Parce que les appareils que nous fabriquons n'ont pas du tout la vision que nous avons. Bien, donc les orbes, je répète, c'est simplement des formes de vie que nous voyons. Simplement qui vont se faire voir d'une manière photonique à nos yeux ou aux yeux de la caméra ou de l'appareil photo. Ressentir l'énergie, une question de Tara. Quand tu dis que tout est illusion et que l'essence à comprendre se trouve dans la vibration, tu peux expliquer ce que tu ressens quand l'énergie se manifeste à tes sens et que ton cœur se remplit de paix et d'absolu. Qu'est-ce que tu ressens plus ou moins exactement? Alors, j'ai essayé de relire pour comprendre où est la question, parce que là... Alors, si je peux expliquer ce que je ressens quand l'énergie se manifeste à mes sens, c'est simple. Il se passe des choses en moi, et je capte qu'il se passe des choses dans moi, comme à l'image quand vous lancez un caillou dans un étang. Ça fait des vagues. Ça fait des vagues, tout simplement. Donc, ces vagues peuvent être, je dirais, ressenti comme une espèce de vibration en soi, un fourmillement, un chatouillement, on va dire. Mais ça, c'est surtout sur un plan, on va dire, physique. Mais après, sur le plan des ressentis, tout ça, c'est la même chose. Je veux dire, même sur le plan des pensées. Quand il se passe quelque chose, je sens simplement la chose. Parce que ça n'agit pas sur le même niveau, entre guillemets, physique. C'est-à-dire que quand il y a une vibration sur le plan, on va dire, mental, c'est-à-dire le plan des pensées, c'est une chose. Mais quand c'est une vibration sur le plan spirituel, c'est-à-dire de connexion avec la source, c'en est une autre. Mais quand c'est sur le plan énergétique, alimentaire, voire sexuel, c'en est une autre. Quand c'est sur le plan physique, c'en est une autre. Donc on voit qu'on est un sandwich de plusieurs plans et chacun a sa vibration, entre guillemets. Donc c'est pas les mêmes fréquences, c'est pas les mêmes sensations, mais notre objectif, et je vous le rappelle, c'est que ce sandwich doit faire un. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive sur quelconque des sept plans qui nous composent, eh bien il y a harmonie entre ces sept plans, c'est-à-dire que vous ressentez ce qui se passe à tous les étages. J'ai souvent pris l'exemple des différents chakras comme un bâtiment avec des étages. Donc il y a, on va dire, 6 étages, puisque le 7e c'est la terrasse, pour faire accueillir les extraterrestres. Donc l'ascenseur s'arrête au 6e. Et donc le rez-de-chaussée, vous pouvez imaginer que c'est là où il y a toutes les poubelles. D'ailleurs c'est le cas. Donc il y a des habitants à tous les étages, et l'objectif est qu'il y ait harmonie entre tous ces habitants. Donc simplement, les habitants du 3e ne vont pas parler le même langage que celui du 6e, qui ne parlera pas du tout le même langage que le 1er, etc. Néanmoins, Ils prennent tous l'ascenseur et ils passent tous par le rez-de-chaussée. Donc, vaut mieux être en bon terme avec tous les voisins. Voilà. Donc, soyez en bon terme avec tous vos plans d'existence. Et à ce moment-là, ben, vous verrez que quand vous êtes au sixième, ben, si vous parlez d'une dame, vous allez en parler avec des mots très éthérés, très vibratoires. Alors que quand vous êtes au premier étage, ça va être basique et instinctif, au ras des pâquerettes, quoi. Mais ça sera toujours une dame. Simplement, il faut arriver à faire coexister, on va dire, les différentes interprétations qui peuvent être faites par chacun des plans. Donc un homme est un homme, en bas ça sera un brutépeste, en haut ça sera un évanescent angélique, les dames, etc., les enfants. C'est-à-dire, je ne suis pas pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants, quoi que ce soit, mais imaginez simplement qu'à chaque étage, ils ont leur propre langage, avec des mots, en rapport avec la vibration avec lesquelles ils vivent. Voilà pourquoi, quand nous sommes dans le processus de l'ascension, il faut reconnaître et accepter chaque être humain, chaque unicité. Car en fait, que ça soit un tiers-mondiste, que ça soit un crève-la-faim, que ce soit un SDF, que ça soit un mal-lavé, ou que ce soit quelqu'un dans les hauts étages qui roule dans les grosses berlines à 25 portes, on s'en fout. L'essentiel est de les respecter pour ce qu'ils sont. Alors, il y a les gens de l'aristocratie, il y a les gens du peuple, il y a les gens ceci, il y a les gens cela, on s'en fout. Ce sont simplement des habitants de différents étages. Et donc, à terme, vous découvrirez que vous pourrez parler avec celui qui vit au rez-de-chaussée, avec des termes populaires, pas forcément grossiers. Mais vous pourrez aussi parler avec les gens du premier étage, puis du deuxième, puis du troisième. Mais il vous faudra, à fort à mesure que vous montez dans les étages, eh bien, avoir un petit peu plus de raffinement et surtout d'avoir une notion moins, comment dire, basique et physique, c'est-à-dire plus vibratoire. Car plus vous montrez dans les étages, plus vous verrez que c'est de la finesse. C'est normal, la vibration, la longueur d'onde est beaucoup plus courte. Donc c'est beaucoup plus fin. Quand un habitant du sixième étage vous parle, c'est que de la finesse, c'est de la poésie. Simplement, si vous êtes une brute épaisse du premier étage, vous allez avoir du rez-de-chaussée, vous allez avoir du mal à comprendre tout ce qu'il raconte. Vous sentez que ça vous fait du bien, mais vous ne comprenez pas tous les mots qu'il dit. Par contre, si vous parlez, je dirais, avec grosse vulgarité, à ce genre de personnages qui vivent dans les étages très hauts, il va vite dire « Ah, c'est le gars des poubelles celui-là. » Ok, donc, s'aimer soi-même, c'est surtout aimer les différents personnages qui nous habitent, et donc aussi aimer tous les différents personnages que l'on vient à rencontrer dans sa vie, sans dire que le sixième est supérieur à celui du rez-de-chaussée. Parce qu'en fait, si le mec du rez-de-chaussée n'était pas là, tous ceux qui sont au-dessus des étages, ils ne pourraient pas vivre. Parce qu'il d'abord, ils ne pourraient pas prendre l'ascenseur, il n'y aurait personne pour vider leur poubelle. Donc, comme on dit, ceux qui se la pètent plus haut que le cul, c'est pas bon signe, en règle générale. Nous sommes tous égaux, quoi qu'on dise. Simplement, nous n'avons pas la même forme d'expérience, car tout cela dépend de notre incarnation présente. Donc, si présentement on fait partie du peuple en moyenne, ben c'est parce qu'on a désiré être dans le peuple. Mais si on est de la haute, ben c'est parce qu'on a désiré d'être de la haute, etc. Donc, il n'y a absolument qu'un jugement à faire à ce propos, et il n'y a absolument aucune personne qui est supérieure à une autre en quoi que ce soit. Car si aujourd'hui vous êtes intelligent, peut-être dans une vie antérieure, vous étiez une bille totale. Réciproquement, vous êtes peut-être une bille totale dans cette vie, alors que vous étiez suprêmement intelligent dans une vie antérieure. Donc, nous avons fait tous les rôles, tous les étages, de la débilité mentale au génie. On a tout fait. Donc, pourquoi mettre quelqu'un au-dessus ou en dessous de nous? Il n'y en a aucune raison. Sinon, simplement de prouver que vous êtes encore en 3D et que vous avez besoin de dominer. Ou d'être de nous. Alors, une question de Frédéric. Comment ressens-tu le champ énergétique des gens? Est-ce que tu vois l'énergie des gens s'interpénétrer, être en harmonie avec la tienne ou bien en compétition avec la tienne en essayant de s'approprier ta propre énergie? Si par exemple quelqu'un est en désaccord avec toi et essaie de te convaincre avec force, ressens-tu l'énergie de l'autre tenter de prendre la tienne et dans ce cas, pour désamorcer, doit-on envoyer de l'amour? Autrement dit, au-delà du ressenti vibratoire, est-ce que l'on peut voir les interactions énergétiques entre deux individus par la couleur du champ qu'ils dégagent? Alors, pour répondre directement, je vois rien de tout ça et je m'en fous. Parce que ce n'est pas parce qu'un certain personnage a écrit, je dirais, quelque chose dans ce goût-là, je ne me rappelle plus du tout son nom, et les différents bouquins qu'il a écrits, hein. Ah oui, les prophéties des hommes, Paulo Coelho, je crois, un truc comme ça, eh bien, c'est pas parce qu'il en a parlé sous ces termes-là que c'est forcément une réalité pour tous. C'est-à-dire que chacun d'entre nous a des capacités, on est d'accord. Mais nous n'avons pas tous les mêmes capacités. Il y en a qui voient avec des yeux, il y en a qui voient avec des oreilles, il y en a qui voient avec autre chose. Donc, voir les énergies de l'un bouffer l'autre, les énergies de l'autre, bon, bah, ça peut être intéressant, mais je pense assez vite lassant. Parce qu'en fait, tout autour de nous, dans ce monde de 3D, il n'y a que des gens qui sucent d'autres gens. Et qui, bah, pour bien sûr pas mourir, vont en sucer d'autres. Donc, ce ne sont que des gens qui tournent sur eux-mêmes, enfin sur eux-mêmes, dans le même cercle, dans la même logique, entre guillemets, et c'est pas intéressant du tout. Moi, personnellement, je suis content de ne pas voir ça, parce que ça m'évite, je dirais, de rajouter, pas au désespoir, mais disons qu'à ne pas nuire à l'optimisme, entre guillemets, que j'ai par rapport à l'humain. Par contre, quand quelqu'un me suce, je le sais, hein, c'est-à-dire que je sais quand quelqu'un me pompe l'énergie, et nous savons tous quand quelqu'un vous pompe de l'énergie. Hein. Si vous vous sentez fatigué alors qu'il n'y a aucune raison que vous le soyez, ben, c'est que certaines personnes sont vraiment des aspirateurs, je dirais, importants. Hein. Donc, dans ce cas-là, je n'ai pas envoyé de l'amour à la personne, je prends tout simplement la tangente. C'est aussi simple que ça. Et c'est pas compliqué. Pourquoi fournir encore plus d'énergie pour arrêter quelque chose quand vous pouvez simplement arrêter que la pompe à tir, quoi. Donc, quand je sens pas un truc ou je le sens pas suffisamment, enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui va pas, je fais pas traîner. Hein. Je trouve toutes les excuses du monde. Alors, quand on dit faut pas mentir, ben, c'est des fois difficile. Hein. Je suis comme un toubib. Des fois, je n'ai pas regardé quelqu'un en disant « Mais écoute, là, tu commences vraiment à me pomper l'énergie », quoique des fois, on me dit bien, mais on ne peut pas le dire à tout le monde. On ne peut pas le dire à son patron, on ne peut pas le dire à d'autres personnes, hein, ou à ses parents, ou à sa femme, ou à d'autres. On ne peut pas dire « Là, tu me pompes, là, j'en peux plus. » Bon, des fois, on le dit parce qu'on est basique et ça devient urgent, quoi. Hein, donc, on n'y va pas avec des pincettes. Mais généralement, on fait escape, hein, on s'en va dès qu'on peut, parce qu'on sent que c'est pas bon pour nous. Donc, c'est la même chose quand vous serez en contact avec des extraterrestres. Si vous sentez que ça vous pompe, écourtez la conversation, comme on dit. Hein. Si par contre, vous vous sentez stimulé et puis que ça fait du bien, vous pouvez continuer la conversation. C'est aussi simple que ça. Si l'autre désire poursuivre la conversation alors que vous êtes en train de vous remplir, c'est qu'il est vraiment dans le don inconditionnel et il sait qu'il est en train de recharger vos batteries. Et donc, quand quelqu'un vous recharge les batteries, ça ne peut pas être négatif. Parce qu'il vous veut du bien. Il est dans le don inconditionnel. Et donc, c'est ce que fait toute personne qui est dans le processus de l'ascension à un certain stade. Il est dans le don inconditionnel. Mais, quand il sent que l'aiguille commence à aller dans le rouge, vous savez, dans les batteries, vous avez rouge, jaune et vert, quand il commence à sentir que l'aiguille sort du vert pour aller dans le jaune, il commence à se dire là, il serait peut-être temps que j'aille recharger les batteries avant de tomber dans le rouge. Donc, quand vous sentez que vous commencez à peiner un peu, vous écourtez la conversation, vous protégez n'importe quoi, et vous prenez la tangente, tout simplement, pour aller vous recharger. L'objectif, c'est pas d'être dans le don inconditionnel, con et stupide. C'est-à-dire de dire je donne, et puis quand vous serez dans la zone rouge, on viendra vous récupérer la petite cuillère. Donc le but d'un lampadaire, c'est que ça ne brille que quand ça a de l'électricité. Quand il n'y a plus d'électricité ou une baisse d'électricité, il s'arrête. Et puis quand ça revient, il rééclaire. Donc faut simplement savoir. C'est tout. Donc moi, je ne vois pas rien de tout ça, et j'ai pas besoin de le voir parce que je le sens. Comme la majorité d'entre vous, je pense que nous avons tous eu cette expérience. Donc on est tous câblés pour ça, donc il n'y a pas besoin de se faire un schéma en faisant des beaux dessins avec des belles couleurs, entre guillemets, pour montrer qu'il y en a un autre qui est en train de te tirer ton énergie. Alors, une autre question de Tara. Est-ce que même les endormis ressentent les vibrations de ceux qui sont assez éveillés et nous regardent comme des itis en nous croisant? Alors, qui nous prennent pour des itis? Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Donc, ne soyez pas surpris qu'on vous prenne pour des itis, parce qu'il est totalement anormal que des gens soient souriants, qui donnent de leur énergie, de leur bienveillance, et qu'en plus, ils ne vous jugent pas. Donc ça, c'est franchement être un itis. On est d'accord. Hein? Donc, est-ce qu'ils ressentent les vibrations? Oui, ils les ressentent. Simplement, dans les débuts, ça leur fait du bien, mais arrive un moment, ils sont dérangés par cette énergie parce que ça leur fait remettre en cause leur référence. Donc, c'est pour ça que quand on est en contact avec d'autres personnes, il faut savoir, comme on dit, se retirer avec élégance avant que les choses se déclenchent. Donc, donner de l'énergie à quelqu'un, entre guillemets, ça sera malgré nous, de toute façon, puisque si quelqu'un pénètre dans votre aura, il aura de toute façon de l'énergie, mais il faut savoir quand l'autre va commencer à tilter, comme on dit, donc il faut simplement prendre la tangente, là encore. Donc, on peut donner, on peut se faire soutirer, comme vous voulez, mais il y a une limite, dans les deux sens. Hein? Mais tout ce que je sais, c'est que toute personne que je rencontre se rappellera de moi, de toute façon. Donc, effectivement, on les influence. Quoi qu'on dise, même s'ils ne connaissent pas votre nom, même s'ils ne savent pas d'où vous tirez, même s'ils disent tiens, il est bizarre ce type, on s'en fout. L'essentiel, c'est que vous ayez, c'est que vous leur ayez montré que l'on peut être souriant, cool et peinard, tout en étant de ce monde, entre guillemets. Laetitia, question sur la clairvoyance. Prenons le cas d'une personne qui consulte une clairvoyante et elle trouve sur la personne des fantômes, des omnis ou des fées, bref, des entités. Quel est ton ressenti à ce sujet? C'est simple. Je crois que tout ce qui touche à l'astral, de près ou de loin, que ce soit du bas, voire du haut, eh bien, je m'en contrefous complètement. Alors qu'on me parle de fées devenues ou de fantômes, je m'en fous. Parce que tout ceci n'est que perturbation, enfin, pour moi, mentale. En clair, tout est forme de vie. Donc, toute forme de vie appartient à toutes les dimensions. Alors que vous voyez de la dimension de la 1D, entre guillemets, en parlant des fantômes, que vous voyez des ovnis, enfin, l'effet c'est de deuxième dimension, ou que vous voyez des ovnis, c'est-à-dire des choses qui peuvent venir de troisième dimension, voire de dessus, est-ce important? Là est la question. Donc moi, je ne me suis jamais embarrassé à dire « Ah tiens, j'ai vu un ange, j'ai vu un archange, j'ai vu une fée, j'ai vu un aile, j'ai vu ceci, ou j'ai vu un ovni, je m'en fous. » Ce qui est important à mes yeux, à ce niveau-là, parce que bon, la clairvoyance, c'est y voir clair, or, tout est forme de vie. Donc quand on veut y voir clair, à la fin, on ne voit plus grand-chose. Parce que ces gens sont forcément en train de se focaliser sur quelque chose. Et s'ils se focalisent sur quelque chose, ils ne verront pas ce qu'il y a à côté. Donc si vous mettez, c'est comme un poste de radio, si vous mettez sur fréquence FM, vous ne verrez pas l'AM. Si vous mettez Radio Monte Carlo, vous n'écouterez pas France Inter. Donc on veut voir ce qu'on a envie de voir. Alors après, vous pouvez aller voir les clairvoyants que vous voulez. Ceux qui voient l'astral, le bas astral, ceux qui voient le moyen ou ceux qui voient le haut. C'est comme vous voulez. Mais est-ce important? J'ai pas eu besoin de ça pour avancer, entre guillemets, bien au contraire, plus vous les ignorez, moins vous allez les alimenter, et donc plus vous êtes capable de garder ce qu'on appelle votre intégrité. Si vous pensez fée, vous attirez les fées à vous. Vous pensez fantôme, vous attirez les fantômes à vous. Vous pensez ovni, vous allez attirer les ovnis. Et je vous rappelle que les ovnis, c'est pas tous des bienfaiteurs. Hein? Donc, comme dirait l'autre, moins ça vous passe par la tête, moins vous poserez de questions sur le sujet, et plus vous pourrez avancer sereinement. Voilà ce que j'en pense, mais libre à chacun d'avancer comme il veut. Hein. Si vous sentez des attirances pour, par exemple, rencontrer des élémentaux, c'est peut-être parce que, tout simplement, vous avez une mémoire assez fraîche des élémentaux, puisque, je vous le rappelle, les élémentaux sont la vie, d'une certaine manière, entre les minéraux, la 1D et la 2D. Donc c'est une forme de vie au même titre que les animaux, et donc les humains. Et donc nous avons été des élémentaux, et comme si on conjugue tout au temps présent, nous sommes aussi des élémentaux. Donc il y a des personnes, des humains, des préhumains, qui ont une mémoire assez fraîche, on va dire, de ce côté d'évolution qu'ils ont en tant qu'élémental. Et donc si ils ont cette fréquence, et que naturellement, il rentre en résonance avec les élémentaux, eh bien, tout va bien. Mais si vous n'avez pas cette fréquence consciente, c'est-à-dire que moi, je ne recherche pas à rentrer en relation avec les élémentaux, parce que ce n'est pas dans mon champ de conscience. Cela ne veut pas dire que je ne discute pas avec eux, dans le sens que je les respecte pour ce qu'ils sont, mais je suis branché sur une autre fréquence. Donc je respecte la nature dans mon quotidien au maximum, et ceci depuis plusieurs dizaines d'années. Je les respecte. Je comprends qu'ils sont là. Je sais plein de choses, plus ou moins, à leur sujet. Mais je ne fais pas une focalisation, parce que ce n'est pas dans mon contrat de vie maintenant. De ce que je vis maintenant. Peut-être que dans 10 ans, je deviendrai un gourou des élémentaux, j'en sais rien. Mais une chose est claire, c'est que si vous vous sentiez attiré vers quelque chose d'une manière naturelle, et vous sentez un besoin de contact, alors faites-le. Parce que c'est simplement une partie de vous-même qui est en train de vous parler. Donc, il n'y a aucun interdit à ce niveau-là. Il faut rester fluide par rapport à tout ça. Hein. Donc moi, je me rappelle, dans une période de ma vie, je ne pouvais voir aucun acte de violence. Et à chaque fois, je voyais une violence. Par exemple, les jours un peu la fenêtre, il commence vraiment à faire chaud. Le truc, c'était Dragon Ball Z. Je voyais un épisode de Dragon Ball Z qui devait durer, je ne sais pas, 5 minutes ou 10 minutes au maximum. Et j'étais dans tous mes états, alors incroyable, j'étais ébranlé énergétiquement parlant et d'une violence intérieure incroyable. Et je ne pouvais pas supporter Dragon Ball Z. Vous voyez, c'est quand même fort. Hein. Et les enfants regardaient ça comme du petit lait. Et donc, devant ce fait, eh bien, j'ai dit, bon, écoute, si tu as une réaction aussi violente par rapport à ça, enfin, violente au niveau physique, et pas psychologique, mais j'avais le système nerveux en bouillie, quoi. J'ai dit, on va regarder ça. Et donc, je me suis allongé sur le divan. Et comme ma femme s'était amusée avec le magnétoscope à enregistrer tous les épisodes les uns après les autres pour faire quelque chose d'à peu près cohérent, eh bien, je me suis bouffé, je crois, 2 heures de Dragon Ball Z. J'étais en transe totale sur ce divan. J'étais dans un état, mais de marmelade, on va dire, de confiture, de mec étalé qu'on pouvait plus. Mais j'ai laissé les yeux ouverts. Alors ça pissait, la serpillière, je sais pas, mais... Et j'ai dit, ça, tu veux pas le voir, ça te fait des choses, mais tu vas apprendre à le regarder dans les yeux. Afin de contrôler ça, de contrôler dans le sens de laisser s'exprimer, et que tu ne sois plus dépendant du moindre petit bout de Dragon Ball Z qui viendrait à te voir sous les yeux. Et croyez-moi, ça a été une épreuve, ça a été un truc assez costaud. Puis je me suis relevé. Et puis après, tout ce qui me mettait aussi dans des états à peu près similaires, je les regardais. Avant, quand je voyais du sang, je tombais dans les pommes systématiquement. Donc imaginez que quand je regardais un film où quelqu'un se faisait couper la tête, où il y avait un peu de boucherie, je tordais de l'œil. Donc ça, c'était pas marrant, ça. C'est pas marrant socialement. Donc j'ai appris à regarder du sanglant. Maintenant, je regarde du sanglant, ça m'affecte même pas, il n'y a même pas une cellule de mon corps qui bouge. Pourquoi ? Parce que c'était simplement des images profondément enfouies en moi, certainement dues à des vies antérieures, qui étaient absolument, je dirais... comment dire, aussi allergique, vous savez, comme quand vous avez des brûlures assez forte, un peu qui souffle et vous sentez vraiment mal, eh bien je les ai regardés en face et je n'ai pas fait de cadeau. J'étais déterminé à dire je ne veux plus tomber dans les pommes quand je vois du sang, je ne veux plus être totalement énervé dès que je vois un bout de dessin animé ou à la Dragon Ball Z, je veux plus, je ne veux plus tout ça. Donc j'ai pris le taureau par les cornes. Et maintenant, je peux vous dire que je peux couper le clapet émotionnel et affectif d'une manière franche et immédiate, qui fait que toute chose qui pourrait paraître choquante ne fera même pas sourciller la paupière. Donc ça s'appelle un réglage, entre guillemets, d'intensité. Et concernant, je dirais, les autres choses que je dois découvrir dans ma vie, c'est ma façon de procéder à moi. Si quelque chose me fait tout barrer en banane, parce que je ne sais pas d'où ça sort et rien ne peut résister au niveau de mon corps, alors là je me dis ça, c'est un truc que je dois travailler, qu'il faut que je regarde en face, et je vais le regarder en face. Bon, au bout de quelques dizaines d'années, croyez-moi, il y a eu du ménage de fait. Bref, donc là ça me fait venir à prendre soin de soi, une question de Raymond. Âgé de 82 ans, j'ai une nature altruiste. Cela se manifeste sous forme de bénévolat et d'entraide, sans que je le propose ou le recherche. Lorsque j'apporte mon aide à autrui, sous quelque forme que ce soit, tout se passe bien, pour autrui et pour moi. Si je décide de m'occuper de moi, sous quelque forme que ce soit en général, dans les 24 ou 48 heures, ça va de travers. Les obstacles se présentent de façon différente, santé, finances, matériel, contrariété, extérieure, etc. Et pourtant, c'est avec beaucoup d'optimisme que j'entreprends des travaux indispensables et urgents dans ma maison. Mais tout foire. D'après toi, que dois-je comprendre? Eh bien, quand tu dis comprendre, c'est simplement à réaliser que à chaque fois que tu te laisseras porter par ta véritable vibration, tout fonctionnera. Mais qu'à chaque fois que ton mental, pour des raisons X, Y, Z, essaiera de prendre les rênes, eh bien, tu te prendras un mur. Voilà ce qu'il y a à comprendre. C'est aussi simple que cela. Donc, que ce soit pour toi ou pas pour toi, n'est pas là la véritable question. La véritable question est, suis-je dans ma vibration? Si je suis ma vibration, alors je pourrais peut-être faire aussi des travaux dans ma maison. Mais je ne dirais pas ma maison, je dirais je répare un toit parmi d'autres toits. Mais pas je répare mon toit parce que j'ai besoin d'avoir un toit qui ne fuit plus. Il n'y a plus de raison. C'est en cela la différence. C'est juste un état d'être. Et peut-être que dans une vie antérieure, tu as vraiment vécu pour toi et rien que pour toi. Et là, c'est simplement une petite extrême te disant qu'à chaque fois que tu vas penser perso, tu vas t'en ramasser une. Ah oui, parce que, comme vous le savez, on a tous des graduations différentes par rapport à ce que nous devons vivre. Donc, être dans l'altruisme est quelque chose de naturel chez toutes les entités supérieures. Et même inférieures dans le sens vibratoire du terme, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, une salade, elle a envie de se faire manger par un animal. Donc, elle est vraiment dans l'altruisme, dans le don inconditionnel de ce qu'elle est, puisque c'est son objectif. Par contre, si elle dit « mais moi je suis salade et je dois penser à ma descendance et tout », c'est sûr qu'elle va avoir des ennuis. Bien. Maintenant, passons à une autre demande qui est celle de la rêverie. Une question d'Evelyne. « J'ai une tendance à la rêverie, à me complaire dans un monde imaginaire où je me crée des tas d'histoires. Par exemple, à partir d'un souvenir, je revis l'événement 1000 fois. » Je m'y complais, surtout s'il est plaisant, et je brode sur les suites, sur ce que j'aurais pu être, sur un futur éventuel. Bref, j'ai l'imagination très fertile. Est-ce que cela est contraire à la pratique de licité et de la conscience de l'instant présent? Est-ce que vivre dans l'instant présent nous interdit de se remémorer, les souvenirs, retour vers le passé, ou même d'imaginer un futur paradisiaque, projection dans le futur? Alors, il ne faut pas tout confondre. Il ne faut pas tout confondre dans le sens de la projection dans le futur. Parce que ça, c'est une opération qui, bien sûr, est contraire à licité. Néanmoins, il y a souvent quand même, quand il y a le vent qui souffle, ça ne vous empêche pas quand même de noter la direction. Après, savoir quelles sont toutes les conséquences de cette direction ne nous appartient pas, hein, puisque comme on dit, le vent peut tourner. Donc, prendre conscience de grands axes qui vont vers le futur est naturel. Hein. Regarder dans le passé et le remouliner est naturel. Parce qu'en fait, la plus grande de toutes les sagesses, c'est qu'à partir du même événement, on aille explorer tous les fils du temps que l'on aurait pu explorer. Et donc, pour les êtres évolués, c'est un signe d'une grande sagesse qu'un individu soit capable de reprendre le même événement et de pouvoir le remouliner sous des tas d'autres façons. Et donc, ce que nous appelons l'imagination, ça me fait rire, hein, c'est en fait notre capacité à voyager sur tous les autres fils du temps que nous n'avons pas fait consciemment dans cette vie. Quand je dis consciemment, en termes temporels. Parce qu'on ne peut pas explorer toutes les possibilités. Mais quand on pose son cul et qu'on en fait, eh bien, on les explore véritablement. Et donc, il est excessivement plaisant, on va dire, de pouvoir explorer les autres fils du temps en conscience. C'est-à-dire que vous allez regarder un événement du passé, un problème, un truc déclencheur, n'importe quoi, et vous allez voir toutes les possibilités que vous pouvez que soi-disant imaginer, mais qui en fait n'est qu'un voyage dimensionnel sur des fils du temps. Vous allez en fait enrichir votre propre expérience de cet événement. Donc, au lieu, même si vous n'avez pris qu'un seul fil du temps, dans cette vie, dans cette dimension, en fait, le fait de rêvasser et de se balader sur les autres fils du temps est un exercice, on va dire, qui rend encore plus sage, puisque vous acquérez à ce moment-là encore plus de sagesse. Ce n'est pas de l'imagination dans le sens que c'est vous qui imaginez les choses et dire voilà, il y a ceci, il y a cela, puis s'il va arriver ceci, il va arriver cela. Non. Vous êtes en réalité dans un fil du temps et donc dans une autre réalité. Ainsi, quand les êtres, on va dire, de lumière nous regardent et voient que nous sommes capables, à partir d'un même événement, de le décrire sous différentes formes, dans différents scénarios, est un signe d'avancement vibratoire réel. Car plus nous allons avancer dans les dimensions, et plus nous allons faire ceci. Ne pensez pas que quand nous serons en 5D, 6D, on va se les glander à mort à pas savoir quoi foutre. Non, nous allons passer notre temps à voyager sur les fils du temps. Donc, comme je vous disais, il n'y aura pas de plombier, il n'y aura pas d'électricien, il n'y aura pas de tout ça, parce que ce qui nous suffira, c'est simplement un milieu énergétiquement propre, on va dire. Un endroit harmonieux où on va pouvoir dormir, manger, et le reste du temps, rêvasser. Vous savez, quand vous êtes en 2D, vous êtes comme un arbre. Et un arbre, c'est une conscience comme les élémentaux, d'une certaine manière, puisque ce sont les élémentaux qui donnent vie aux arbres, je vous signale. Eh bien, ils sont en état de rêve. C'est-à-dire qu'ils vivent dans des dimensions où il se passe des tas de choses imaginaires. Des tas de choses, c'est du rêve. Parce que ce sont des entités esprits qui s'incarnent dans la matière. Donc, ils vivent ça comme un rêve. Et donc, quand un individu de 3D, 4D redécouvre cette capacité de rêve, il redevient un enfant. Et s'il redevient un enfant, il vivra encore plus sonicité présente. Parce que chaque petite chose qui lui arrivera sera une source, je dirais, d'imagination, on va dire, future. Et ce que nous allons faire en 5D, 6D principalement, ça va être de redécouvrir cette capacité de rêverie qui n'est en fait que du voyage interdimensionnel. Nous allons redécouvrir ce que nous sommes. Donc, La tendance à la rêverie ou à la rêvasserie est une tendance, je dirais, hautement évolutive pour les gens comme nous qui ont été déconnectés par le processus de la séparation continue depuis des millénaires. Nous nous reconnectons aux autres dimensions en réapprenant à rêvasser et donc à se balader sur les fils du temps. Une question de MA. Depuis l'enfance, je crois que j'ai pris l'habitude de m'envoler dans ce genre de rêverie. À plus de 50 ans, c'est encore là. Et je dois dire que ce sont des moments de paix pour moi. La contrepartie, c'est que du coup, le mental est très fort. Et quand cela part dans le négatif, alors là, c'est épouvantable. En ce qui me concerne, je crains que tout cela soit de l'astral. Alors que faire? On y reste quand c'est bon et on respire quand c'est bas, lourd et douloureux? Et si ceci n'était que mensonge à soi-même, difficile de faire le tri. Eh bien, là, MA nous dit tout simplement que elle aime les rêveries, la rêvasserie. Et elle se dit, ouais, mais je suis dans l'astral. Ça, c'est simplement une déformation due au mental ego. Effectivement, on peut aller sur les fils du temps qui sont dans le bas astral, 1D, 2D, 3D. Donc quand vous allez en 1D, vous allez penser aux morts, aux fantômes, etc. Ce sont des fils de temps que vous pouvez explorer. Mais vous pouvez aussi explorer les fils du temps de la 2D, qui est le côté énergétique, le côté, vous savez, très fluo, très évanescent, comme on voit les déesses et les trucs. C'est du doré, c'est du pastel. On peut s'y croire, d'accord? Mais on peut aussi explorer les fils du temps de la 3D, enfin de ce qui est équivalent 3D au niveau de l'astral, qui est celui du pouvoir. Alors là, on cause, parce qu'on est le roi, on est le seigneur, on cause avec les anges et les archanges, et avec les divinités. Donc on est toujours dans l'astral, mais ce sont toujours des fils du temps. Rappelez-vous une comparaison que j'avais faite à une époque dans un article, où c'était une carte routière. Vous regardez la carte routière, ben, vous savez, vue de haut, quoi. Simplement, la seule chose que vous ne voyez pas vue de haut, c'est l'altitude. Donc vous dites, bah, je pars de telle ville pour aller dans telle ville, vous avez déjà plein de chemins que vous pouvez prendre. Donc ça, c'est votre destin d'une certaine manière. Et donc, bah, selon que vous êtes toujours tourné à droite ou à gauche, bah, vous allez emprunter un chemin de campagne ou la nationale, voire l'autoroute. Mais pour aller d'un point à un autre, de toute façon, vous prendrez toujours ces routes. Parce que bah, vous êtes sur le plancher des vaches. Par contre, à quelle altitude allez-vous le faire? Si vous le faites au niveau de la 1D, bah vous allez vous rencontrer tous les morts-vivants qui se trimballent sur la route. Si vous les faites en 2D, bah vous commencez déjà à être le petit zozio, entre guillemets, qui vole au-dessus des arbres. C'est-à-dire que vous allez être pleine de vie et que bah, les embouteillages des morts-vivants, ça va moins vous contraindre, etc. Et donc, quand vous montez de plus en plus en altitude, eh bien, vous allez pouvoir prendre la ligne droite de plus en plus vite. Et il est évident que quand vous arrivez au niveau du haut astral, ben vous arrivez au niveau, on va dire, de l'atmosphère, des hauteurs, je dirais de la haute atmosphère. Et à ce moment-là, ben vous êtes quasiment comme un satellite, quoi. C'est-à-dire que là, vous vous foutez royalement des routes, vous vous foutez des embouteillages, des feux rouges, à la rigueur de l'heure et de la date. Puisque vous pouvez passer autant de fois que vous voulez dans les trucs. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les fils du temps, c'est comme si vous étiez en train de voyager sur différentes routes, mais qui se trouvent à des altitudes différentes. Donc, si vous voulez partir de Paris pour aller à, je sais pas moi, à Montpellier, eh bien, vous pouvez prendre la route. Mais qu'est-ce qui vous empêche de prendre des cours d'eau puis d'y aller en bateau? Qu'est-ce qui vous empêche de dire, bah, je vais prendre l'avion, mais le petit, vous savez, le petit deltaplane, un petit truc. Mais qu'est-ce qui vous empêche de prendre un 767? Qu'est-ce qui vous empêche de prendre une fusée, d'aller là-haut, puis de redescendre direction Montpellier? Donc, le fil du temps que vous avez à suivre, c'est vous qui le décidez. Et donc, c'est pour ça que les rêveries, les rêvasseries sont importantes, car elles vous permettent, entre guillemets, consciemment, eh bien, de vivre votre multidimensionnalité. Donc, difficile de faire le tri. Ben, pourquoi faire le tri entre le bas, entre l'altitude, rendez pas crête et les différentes altitudes? C'est simplement à toi de voir qu'est-ce que tu as envie de vivre et d'explorer. Si tu as envie de te faire des peurs avec des fantômes, ben, tu n'as pas grand-chose à changer puisque tous ceux qui nous entourent sont souvent des fantômes. Mais si tu veux te la jouer cosmonaute, rien ne t'y empêche. Donc, il n'y a pas une notion d'avoir peur de l'astral ou quoi que ce soit. Nous sommes dans un bocal avec une différente densité, avec différentes formes pensées plus ou moins lourdes. À chacun de dire, voilà, est-ce que je veux voyager dans les bas-fonds ou est-ce que je préfère plutôt l'eau claire en surface? Voilà, donc si vous vous barrez dans des rêvasseries qui sont totalement évanescentes et super évanescentes au point que même un corps physique, ça commence à vous emmerder lourdement, commencez à vous poser la question pourquoi vous êtes incarné. Mais en rêvasserie, c'est super. Mais si présentement vous êtes dans un corps de chair, comme on dit, eh bien là, est-ce que vous êtes en accord entre votre rêvasserie et ce que vous vivez dans votre ici? Hein? Il ne faut pas oublier que nous sommes incarnés dans un corps biologique et qu'il y a une raison à ça. Parce qu'être un évanescent, notre soi supérieur est un évanescent total. Je vous signale que notre soi supérieur n'a pas de corps. Hein? C'est juste une vibration qui normalement nous habite. Donc si on l'écoute, il n'y aura pas de souci. Mais vouloir devenir un évanescent et être dans l'absolu, c'est vachement super. En termes de rêvasserie, c'est génial. C'est comme dire l'autre, la grenouille qui veut se faire bœuf, quoi. Donc, ok, bon. On sait que de toute façon, on vient de la rêvasserie pour vivre quelque chose dans l'incarné. Donc, si l'incarné commence à penser rêvasserie, peut-être on va boucler la boucle, mais ça ne veut pas dire pour ça qu'il faut quitter le véhicule. Hein? De toute façon, cette semaine, enfin la semaine qui vient, il y aura un article, pas un article, mais un article sur éclairage, car j'ai répondu à quelqu'un par rapport à ça. Hein? Donc cette semaine, il y aura quelques publications sur le site éclairage, hein, puisque j'ai répondu un petit peu en détail par rapport à certaines questions. Alors là, ben, on va continuer toujours sur les rêves. Une question de Florence et Sylvie. Comment se fait-il qu'il y ait des périodes très intenses de rêves alors que parfois nous avons l'impression que nous ne rêvons pas ou n'en avons aucun souvenir? Eh bien, ça dépend de la densité, on va dire, des énergies qui nous sont envoyées bien sûr par le soleil et le soleil central, mais aussi, parce que ça fait comme une chape de plomb si vous voulez, hein, donc qui compresse un petit peu les énergies, donc les dimensions. Et donc à ce moment-là, eh bien, comme dire l'autre, c'est lourd, on ne pénètre pas, quoi. Hein? C'est-à-dire que on ne peut plus savoir ce qui s'est passé, premièrement. Et deuxièmement, vous savez, comme toute une armure de plomb, bah, c'est plus ou moins lourd, quoi, selon l'épaisseur. En clair, pour certaines personnes, eh bien, quand elles s'endorment, elles se souviennent absolument plus de rien. Pourquoi? Parce que ça veut dire que consciemment, elles sont encore incapables à pouvoir supporter l'information qu'on leur a transmise. Donc, en d'autres termes, on vous a téléchargé un DVD, mais vous ne pouvez pas encore le lire parce que sinon vous allez être choqué. Donc, on fait motus et bouche cousue et vous attendrez d'être capable pour aller chercher dans la DVD tech celui qui vous intéressera quand vous serez capable de pouvoir le lire, premièrement. Deuxièmement, parce que là je vais lire les autres questions, vous allez voir, c'est assez marrant. Une question de Françoise à propos des rêves: il m'arrive souvent, lorsque je me réveille, de me souvenir de la dernière partie du rêve qui tourne en boucle plusieurs fois de suite sans avoir la finalité. Ensuite, la question de Anna: si dans un rêve je dis à quelqu'un que je l'aime et qu'à mon réveil je le ressens vraiment très fort, est-ce que cela impacte la personne? Alors, on va voir tout ça. Ben, comme on a vu précédemment, c'était, on se balade sur les fils du temps quand on est et dans les différentes dimensions. Hein, le rêve, c'est surtout se balader dans les autres dimensions. Excusez-moi, je ne vais pas tout confondre, mais il y a un rapport avec la rêvasserie. Eh bien, effectivement, donc premier cas, vous êtes en train de vivre une autre vie dans une autre dimension, mais elle n'est pas pour l'instant encore compatible par rapport à vos références personnelles, c'est-à-dire que vous n'êtes pas capable de pouvoir l'encaisser. Donc à ce moment-là, vous n'en souviendrez pas. Cela ne vous empêchera pas de l'avoir vécu, mais vous n'en souviendrez pas. Ensuite, dans le cas où le rêve ne se finit pas, entre guillemets, et tourne en boucle, ça veut dire qu'en fait, c'est simplement, vous avez lu, d'une certaine manière, un DVD qui vous pose une question. C'est-à-dire dire, voilà, bah, tu as vu toute la série là maintenant, et maintenant, qu'est-ce que tu dois en conclure? J'attends ta conclusion. Et donc, bah, forcément, à la fin, la question revient toujours. Alors, c'est quoi? Alors, c'est quoi ta conclusion? Alors, c'est quoi ta conclusion? Donc, c'est assez énervant et je sais que ça m'arrive très régulièrement au point que je me réveille tellement que j'en ai marre d'avoir cette question qui me revient. Hein, c'est-à-dire, c'est un truc récurrent qui est vraiment comme si le disque était rayé et ça devient pénible. Alors, une fois ça va, deux fois ça va, trois fois ça commence à me les gonfler. Bah, alors, à cinq fois, j'ouvre les yeux et je dis, bon, eh, fini les conneries, là, on pense à autre chose. Hein, donc, je suis pas toujours un gentil, hein, faut pas croire par rapport à ce que les autres, enfin les autres parties de moi-même, entre guillemets, essayent de m'inculquer pendant que je dors et donc que je rêve. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, il y en a un peu marre quand même. Hein, parce que c'est vraiment fatigant. Hein. Donc, souvent, des fois, je me réveille encore plus fatigué que si j'avais pas dormi du tout de la nuit. Donc, ça veut dire que là, on vous a chargé, on vous a mis plusieurs CD, plusieurs DVD dans le crâne, et que bah, le corps, il a du mal comment dirait l'autre, à récupérer. Comme dirait l'autre, ça rame à mort. Donc, généralement, bah, je repique du nez sous peu, enfin, entre guillemets, pour récupérer de ce truc-là, quoi. Hein. Donc, en plus, si vous dites à quelqu'un, comme l'Anna dit, ben, si je dis à quelqu'un je t'aime, ben, ça veut dire que tu te souviens de ce que tu as dit, à qui tu l'as dit, il est sûr qu'à ton réveil, tu vas avoir un impact, hein, surtout si tu le ressens très fort, puisque la personne vit aussi dans les différentes dimensions, et elle aussi a donc entendu le je t'aime que tu lui as dit. Donc, si en plus, dans ta vie d'incarné, tu es en train de le vibrationner, comme je dis réellement, c'est sûr que ça va l'impacter. Alors, s'il se rappelle du rêve, pour lui, ça va être une confirmation. S'il ne s'en rappelle pas, il va te trouver désirable, comme on dit. Hein. Donc, il y a forcément, quand on a une vibration d'amour, on attire à soi. Donc, si en plus, il se l'est pris derrière les oreilles sans le savoir, c'est sûr que ça va avoir un effet encore plus fort. Alors, travail sur les mémoires. Une question de ce Sylvie. Concernant un travail de nettoyage personnel sur ses mémoires karmiques et cellulaires, est-ce trop tard? Est-il encore utile de continuer à nettoyer? Cela sera-t-il encore possible en cas D? Comment efface-t-on ses mémoires? Effacera-t-on ses mémoires? Alors, là, c'est pareil. Hein. Donc, quand on était en 3D, c'est sûr qu'il fallait décrasser en permanence. Pourquoi? Parce que, vu le taux de poussière et de crasse qui nous tombait dessus, si on ne faisait pas un peu de ménage régulièrement, c'est sûr qu'on a été enseveli, pour pas dire enterré. Donc, le processus des nettoyages était absolument obligatoire pour toutes les personnes qui voulaient avancer sur le chemin. Et donc, c'est normal qu'on faisait des choses. Mais croire, enfin non, pour moi c'est une croyance, hein, croire qu'on peut guérir un truc karmique, c'est déjà, je dirais, du miracle. Parce que, en fait, c'est votre croyance qui fait, c'est votre foi qui fait que ce truc de mémoire karmique s'en va. Dans la réalité, ce qui a été fait, ce qui a été inscrit, reste inscrit. Si vous avez donné une baffe à quelqu'un, vous pouvez toujours lui dire « je te pardonne et je t'ai pardonné, maintenant ça va, on fait plus la gueule », mais ça n'empêche que lui s'en rappellera que vous lui avez balancé une quand même. Donc, ça n'effacera pas l'événement. Donc, on ne peut pas effacer un effet karmique. On ne peut qu'en prendre conscience et l'accepter pour ce qu'il est. Donc, pour moi, il n'y a pas de nettoyage, il n'y a simplement qu'un recalibrage et qu'une acceptation inconditionnelle de ce qui a été. Je ne vais pas parler de mes antécédents karmiques, parce que ben, quelque part, vous pouvez déjà vous douter que avant d'être dans la voie de la chazelle, de la sagesse, excusez-moi, c'est que j'étais dans la voie de la non-sagesse. En clair. Le pèlerin que vous avez en face de vous aujourd'hui et maintenant, même s'il paraît gentil, et puis bon, de temps en temps il tape un peu quand même sur les doigts ou distribue quelques baffes, je suis d'accord, ça veut dire que dans les vies antérieures, j'en ai fait du lourd et dans le sanglant, on va dire. Donc je l'accepte parce que grâce en fait à toutes ces incarnations précédentes peu glorieuses dans le sens éthique du terme, eh bien elles ont été riches en enseignements. Qui fait qu'aujourd'hui, je peux faire ce que je fais, car je sais ce que c'est de l'avoir fait. Si on désire la paix, c'est parce qu'on a fait la guerre. Parce que si vous n'avez pas fait la guerre, que savez-vous de la paix? Rien. pouvez être en paix, hein. Mais vous ne savez pas que vous êtes en paix puisque vous ne connaissez pas la guerre. Donc, celui qui parlera le mieux de la paix, c'est celui qui aura fait vraiment la guerre. Donc, si aujourd'hui vous voyez des gentils, entre guillemets, qui sont capables de distribuer des informations gratuitement et d'être tout amour avec tout le monde, dites-vous bien que pour en arriver à ce stade, ils ont forcément taquiné complètement l'opposé. Donc, si dans cette vie, il semble être que je sois un gentil, je ne l'ai surtout pas été dans d'autres. Mais bon, c'est normal, ça faisait partie de l'expérimentation. Et pour vous, c'est strictement identique. Les épreuves que vous avez subies dans cette vie sont strictement proportionnelles, je dirais, aux opposés que vous avez eus dans les vies antérieures. Alors, on n'effacera pas nos mémoires, qu'on soit en 4D, en 5D ou en 6D. On acceptera ces mémoires, et parce qu'on les acceptera, eh bien, d'une certaine manière, on s'en détachera, mais elles resteront pour toujours enregistrées dans la mémoire de l'univers. Puis c'est ce qui fait notre unicité, et c'est aussi ce qui fait que le sans-nom découvre qui il est. Donc rien ne sera effacé, mais tout sera pardonné. Et je crois que ce message... Et il y a un type super sympa, il y a 2000 ans, qui disait ça. Pardonnez, puis le reste, il vous sera donné. Alors, technique, une question de Raymond. J'ai trouvé intéressant la pratique du pranayama, méditation sur le souffle et sur l'énergie subtile qui circule en nous. As-tu un avis sur le sujet? D'ailleurs, lorsque je médite, j'applique en même temps la respiration adamantine. Le pranayama, c'est tout simplement alimenter notre système nerveux. Vous savez, notre corps fonctionne à l'oxygène, à l'élément feu. Savoir respirer, c'est-à-dire apporter suffisamment d'énergie à notre véhicule, permet bien sûr à nos cellules de mieux fonctionner, mais aussi à notre cerveau d'être plus puissant en termes, je dirais, de réorganisation intérieure. En clair, la pratique du pranayama est indispensable pour tous les essoufflés que nous sommes. Parce que l'expérience en 3D nous a amené à bloquer toutes nos émotions au niveau du plexus solaire. Et donc le voile de l'oubli, je vous le rappelle, est votre diaphragme, c'est-à-dire ce qui sépare votre troisième chakra du quatrième. Donc toute émotion bloquée au niveau du diaphragme vous bloque automatiquement votre capacité respiratoire, donc votre capacité à engranger de l'énergie de l'élément feu, ce qui vous amène à réfléchir encore moins vite, et donc d'être plus con, et donc plus ignorant. En clair, plus nous apprenons à respirer, et plus nous nous donnons la capacité à reprendre, je dirais, nos véritables capacités. Donc, on s'est séparé de nous en bloquant nos émotions par incompréhension mentale. Donc, en nous balançant des lois à la con, style les religions, eh bien, effectivement, ils en sont arrivés à fabriquer des moutons inconscients qui sont heureux de bêler dans leur champ et de se faire entuber, bien sûr, au passage. Donc, apprenons à respirer. Et aujourd'hui, eh bien, c'est vrai que je n'imagine pas la vie sans savoir respirer. Mais j'ai passé plus de 30 ans de ma vie à faire du pranayama. Je peux vous dire que la respiration est importante. Mais bon. Toutes les techniques, on va dire, hindouistes, sont super. Sauf que à la longue, c'est chiant et impraticable. Parce que beaucoup trop structuré. Simplement, débloquez-vous au niveau des émotions. Apprenez déjà à ouvrir le plexus en écartant les bras vers l'extérieur et en mettant le plexus en avant, vous savez. Et là, vous allez voir combien les choses vont remonter à vous. Hein. Mais je ne suis pas là pour donner des cours de yoga ou de pranayama ou de toutes ces choses-là. À chacun, il y a suffisamment de gens qui savent de quoi ils parlent à ce niveau-là. Mais ce qui fera toute la différence, c'est votre capacité, votre constance à pratiquer les exercices.